Donc, le sujet qui m'a été demandé concerne la valorisation du corps. Pourquoi le valoriser aujourd'hui ? En effet, si vous voulez bien, je partirai d'un contraste. Contraste entre le matérialisme ambiant, qui fait que le corps non seulement est valorisé, mais est quasiment idolâtré, l'importance de l'hygiène, du plaisir, de l'élégance, de l'apparence, de la santé, des photos, etc. Donc du corps, les couvertures de magazines, les top models, la minceur, le corps jeune et bronzé, comme écrivait un auteur. Donc, en un sens, le corps est idolâtré et rien n'est au-dessus de sa santé, de son plaisir, de son hygiène. Un sociologue parlait même de corporéisme. En un sens, il n'y a pas de valeur plus éminente que la santé et le plaisir du corps. Mais en même temps, donc bien souvent, il est dévalorisé, notamment dans les mentalités, dans le discours, dans les représentations. Un sociologue, David Le Breton, a intitulé un de ses derniers livres « L'adieu au corps ». C'est curieux, hein ? D'ailleurs, le thème du dernier livre également de Jean-Claude Guillebeau, qui ne me revient pas. Donc, l'adieu au corps, comme si le corps était congédié, dénié. Alors, il l'est de plusieurs manières, en effet, que nous verrons surtout dans la première partie. Donc, la question est, quels sont les arguments pour redonner de la valeur, le corps retrouvé, c'est le titre de mon dernier livre, avec comme sous-titre, d'ailleurs, un sous-titre significatif, « Donner la vie, c'est la recevoir ». C'est une phrase du texte que l'éditeur a choisi comme sous-titre. C'est le paradoxe étonnant, « Donner la vie, c'est la recevoir ». Donc, pourquoi le valoriser ? Il y a des arguments de type philosophique, sur lesquels je m'arrêterai. Je pense que ce sont ceux qu'il faut le plus élaborer et dire dans la culture actuelle. Et des arguments de type théologique, qu'il faut également capable d'élaborer et de dire, mais dans un contexte différent, davantage en tant que croyant ou entre croyants, arguments théologiques. Et l'articulation entre les arguments philosophiques et les arguments théologiques est un des points importants de cet exposé et de notre travail. Donc je commence par les dénis du corps. Donc de différentes manières, le corps est aujourd'hui congédié ou dénié, en tout cas relativisé, principalement comme source de valeur, comme source de sens, dans sa dimension éthique. J'en prendrai quatre exemples. Un premier exemple, le professeur Bragg y a fait allusion, c'est la banalisation des relations sexuelles. Les relations sexuelles, il paraît évident à beaucoup aujourd'hui, dans les discours, dans les mentalités, que celle-ci ait lieu hors du contexte éthique, hors du contexte de l'engagement, du pacte d'alliance, etc. Il paraît évident que le principal but de ces relations, c'est le plaisir, l'harmonie affective, psychologique, psychosomatique, pourrait-on dire, mais le contexte éthique importe peu. Et il n'est pas tellement question d'intégrer ces relations dans un contexte plus large d'alliance, d'engagement réciproque. Pourtant, ces relations sont le lieu et le moment de la plus grande intimité. Je dis souvent à des jeunes, citez-moi un moment et un lieu où l'intimité entre les corps est plus grande. Donc on trouve normal que le lieu de proximité, d'intimité la plus grande qui soit entre deux corps, soit vécu hors du contexte éthique, c'est-à-dire de l'engagement, de la parole donnée. À ceci donc est associée la dissociation entre sexualité et fécondité, donc dont a explicitement parlé le professeur Bragg. Donc on trouve normal de penser que la sexualité ne débouche pas forcément sur la fécondité, et surtout donc que la fécondité ne s'ancre pas forcément dans la sexualité. J'y reviendrai dans un instant, mais pour le moment je souligne que la dissociation entre sexualité et fécondité est une façon de relativiser la sexualité, de dire elle n'importe peu, elle n'importe pas la longue durée. Parce que fécondité, forcément, signifie longue durée. La naissance d'un enfant, sa croissance, son éducation, c'est forcément un engagement sur une longue durée. Coupée de la fécondité, la sexualité est davantage vécue dans l'instant présent. Voilà. Donc, c'est une façon de la dissocier de sa dimension d'engagement, de sa dimension éthique. À cela, on peut ajouter, je lis déjà aussi, les doutes sur l'importance de la différence sexuelle. Il y a quelques années, un titre du Monde, en page 1, s'il vous plaît, s'intitulait « Homosexualité, virgule, hétérosexualité, deux points, où est la différence ?» Point interrogation. On se demandait quelle différence il y avait entre l'homosexualité et l'hétérosexualité. Et beaucoup de gens doutent aujourd'hui qu'il y a une différence importante entre les deux. Donc, tout se passe comme si, finalement, être homme et femme, ou être homme, ou femme et femme, ça revenait au même. Si le but de l'union était seulement le plaisir, l'échange affectif, et peu importe qu'il y ait un corps.